Nous voulons revenir sur notre merveilleux enseignement, n'est-ce pas? Les besoins de rebâtir donc dans la vie. Là, c'était les murailles, mais il est question de toute notre vie. Rebâtir. Et nous voulons d'abord lire le deuxième chapitre de Néhémie. Nous sommes en train de parler de la chaleur d'abord. Ça ne doit pas être normalement une raison pour que nous puissions hésiter de sortir pour venir à la réunion. On comprend qu'il fait chaud en tout cas. Même moi-même, si on devrait me demander... Mon avis à moi, ce serait que je reste à la maison. Et puis dans l'eau en plus. Ça, en tout cas, je suis sincère avec vous. Dans mon humble avis, je reste à la maison et dans l'eau. Mais il n'y a pas que mon avis. Jésus avait son avis et puis il a dit pas mon avis à moi mais ton avis à toi, ta volonté à toi. Donc nous sommes appelés nous à faire non pas notre volonté mais la volonté du Père. Pensez-vous que c'est la volonté de Dieu que nous soyons ici mercredi? Levez la main. Donc on ne doit pas être à la maison parce qu'il pleut ou parce qu'il fait chaud. Même avec vos ventilateurs là, donc que vous avez là, c'est pas grave, venez avec. Mais au moins on est là. Oh amen. C'est vrai qu'il fait chaud. Néhémie chapitre 2. Nous allons lire. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi de grandes craintes.
Et
je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont le sépulcre de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu?
Et
le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié les dieux des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si son serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps.
Le
Puis-je dire au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda.
Et
une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, des charpentes pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès du gouverneur de l'autre côté du fleuve et je lui ai remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël.
Wana sambala amonite pe tobija mosali na amonite ya ebitamu basili koyoka yango bayeba kikozana kosepela teto na kanda makazi na koyoka ekezana moto moko asili koya poneba koluka bolamu ya bana na Israel.
J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours.
Naibiko koma na Jérusalem pe na Alexis Mikolomi sato.
Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Et je me dirigeais à la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant le muraille en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu. J'ai passé près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé. On y va. Et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs. Ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats. Ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez les malheureux états où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala l'Horonite. Tobija le serviteur ammonite. Et Gershem l'arabe. En ayant été informé, se moquèrent de nous et nous méprisèrent, ils dirent. Et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Les dieux des cieux nous donnera le succès. À ce niveau, je pensais que l'église tout entière allait dire Amen. Il dit, je leur fis cette réponse. Les dieux des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. J'ai beaucoup aimé ce que Néhémie a dit aux habitants qu'il avait trouvé. Verset 17, il dit, voyez-vous le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Ses portes sont consumées par le feu. Et il dit, venez. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Si nous rebâtissons la muraille de Jérusalem, nous ne serons plus dans l'opprobre. Rebâtir vous sort de votre opprobre. Il fallait rebâtir sur les anciennes ruines. Rien n'était bon. N'était en place. Tout était en ruine. Mais il les encourage en leur disant, ne regardez pas ces ruines ici. Ne regardez pas cette cendre. Acceptons seulement de travailler. Et notre opprobre, l'opprobre est défini comme étant une honte extrême et publique. Lisez votre dictionnaire, vous allez voir. L'opprobre est une honte extrême, mais aussi publique. Alors leur honte était extrême et publique. Ils ne pouvaient pas se redresser. Ils ne pouvaient pas se relever. C'était une opprobre sans nom. Et maintenant, il leur dit, si nous nous décidons simplement de nous lever et de bâtir, quand les gens verront ce qui était anéanti se relever, ils vont nous respecter. Est-ce que vous saisissez? Ne laisse pas ta vie en ruine. Tu as besoin de croire que les choses peuvent changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as raison de croire que les choses peuvent changer dans ta vie. Si ta vie a commencé sur, disons, une note négative, et n'est pas appelé à se terminer par une autre note négative, les choses peuvent bien changer. Quelqu'un dit Amen bien. Nous disions autrefois que ce que j'aimerais dire autrement, c'est que Néhémie avait fait de la prière son cheval de bataille. En fait, j'avais voulu dire que le premier réflexe de Néhémie était toujours celui de prier. Quand nous avons introduit cet enseignement, au premier point, nous avons parlé de l'importance de rechercher l'information. C'est ce que Néhémie avait fait lorsque son frère et les autres sont arrivés là où il était. Il a voulu savoir dans quel état et ils avaient laissé Jérusalem. Nous avons appelé ce premier point « recherche de l'info ».
Recherche
de l'information. Deuxième point, c'était la prise de conscience
et
le port du fardeau. Et au troisième point, nous avons parlé de la recherche de la solution. Néhémie a recherché la solution. Mais il a été toujours accompagné dans tous ces détails par la prière.
C'est
pourquoi nous avons dit que le réflexe de Néhémie était toujours de prier. Ça, c'était son tout premier réflexe. Le réflexe de Néhémie était d'abord de prier. Et nous avons dit aussi que notre Dieu accompagne les hommes de prière dans leur action. Il est au cœur de leur action. Pourquoi Dieu se met-il au cœur de l'action des hommes et des femmes de prière? Parce que ces gens, ces hommes, ces femmes les lui demandent. C'est ce qu'ils font dans la prière. Seigneur, nous ne savons pas. Seigneur, nous ne pouvons pas. Seigneur, nous n'avons pas. Seigneur, viens. Toi, tu as. Toi, tu peux. Toi, tu sais. Toi, tu connais. Seigneur, leur demande. Et il est au cœur de leur action. Notre Dieu accompagne les hommes et les femmes de prière. Il les accompagne dans leur action. Oh, amen, amen. Alléluia.
Amen.
Et la prière, nous l'avons dit aussi la fois passée, est une façon de dépendre de Dieu. Et nous nous exhortions en disant que dépendons toujours de Dieu. Car de notre dépendance dépendra notre succès et notre réussite. Alléluia. Oh, alléluia.
Amen.
Il a dit, voyez-vous le malheureux état où nous sommes. Il dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et au verset 20, il dit, s'adressant à ceux qui se moquaient de Sambala, et donc les Horonites et Tobija, serviteurs d'Ammonite, Il va leur dire, les dieux des cieux nous donnera le succès. Amen, amen. Les dieux des cieux nous donnera le succès. Nous ne parlons pas en l'air. Nous disons parce que nous le lui demandons. Nous avons demandé cela au Père, à Dieu. Il nous donnera le succès. Mais vous n'avez pas de part dans cette affaire. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent être nombreux à se moquer de toi. En disant que tu n'auras nulle part dans ton action. Ils n'ont pas part dans cette affaire-là. Je dis qu'ils n'ont pas part dans cette affaire-là. Mais ce qui est certain, c'est que le Dieu à qui tu t'adresses te donnera le succès. Et ceux qui se moquent de toi seront témoins. Ils verront que tu réussis. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Oh, alléluia. Nous avons besoin de comprendre cela. La prière est d'une importance capitale. Celui qui prie touche ou touchera le cœur de Dieu.
Nous
l'avons dit l'autre fois. Et celui qui touche le cœur de Dieu réussira dans ses entreprises. Néhémie a dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Amen, amen. Il n'est pas étonnant de voir un homme, une femme de prière en train de réussir. Église du Seigneur. Ceux qui prient réussissent. Ceux qui prient réussissent. J'aime bien toujours mettre l'équilibre. Je ne parle pas de ceux qui prient et qui sont sans action. Je venais de dire que Dieu accompagne les hommes de prière dans leur action. Est-ce que vous m'avez suivi? Dieu accompagne les hommes, je dirais aussi les femmes, de prière, mais dans leur
action.
Pas dans leur inaction, non. Il est question d'être un homme de prière dans l'action. Et si tu es actif, le Dieu des cieux qui est sensible à ta prière t'accompagnera dans ton action. Alléluia. Oh, alléluia.
Amen.
Et pour rentrer dans notre thème d'annuel, les grands pasteurs de brebis, les bons bergers t'accompagnera. Je dirais même mieux, il t'orientera. Parce que lui, il va au-devant de toi. Quelqu'un dit amen bien.
Amen.
Alléluia. Oui, celui qui prie touchera le cœur de Dieu. Et celui qui touche le cœur de Dieu réussira dans ses entreprises ou dans son action. Ah, je disais que le premier réflexe de Néhémie était toujours de prier. Alléluia.
Amen.
Nous avons dit aussi autre chose, que Dieu récompense ceux qui prient. Dieu récompense ceux qui prient. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux combien? 11 verset
6.
Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu. Comment allez-vous vous approcher de Dieu? C'est par la voie de la prière. Oh, alléluia. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment cherche Dieu? Alléluia.
Amen.
Dieu récompense ceux qui prient. Nous disions la fois passée qu'en prenant l'habitude de prier fréquemment au cours de la journée, nous ferons couler dans nos vies un fleuve de grâce. Un fleuve d'aide de Dieu et de sagesse divine par la prière. Celui qui ne prie pas reste sec. Il sèche. Mais la prière fait que nous soyons arrosés. Vous êtes avec moi? Dieu nous arrose quand nous prions. Parce que nous nous approchons de lui. La Bible nous dit que si nous nous approchons de lui, lui aussi va s'approcher de nous. Vous faites mal quand vous ne priez pas. Vous faites mal quand vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous vous attendrez longtemps à la visitation divine et elle ne viendra pas. Parce que Dieu vous visite par la prière et par la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui ne prie pas, il est en train de dire à Dieu que je me suffis par moi-même. Je n'ai pas besoin de prier. Je me suffis par moi-même. Vous n'avez pas entendu cela de certaines personnes? Qu'est-ce que j'ai à venir à l'église? Je suis bien. J'ai mon travail. Je voyage quand je peux. Je vais voyager. Ils réussissent par eux-mêmes. Ils pensent que cette réussite dépend d'eux-mêmes. C'est parce qu'ils sont stupides. Si tu enlevais simplement le souffle de vie, vont-ils encore travailler? Vont-ils encore réussir? S'ils étaient un tout petit peu intelligents, ils comprendraient que c'est Dieu qui nous fait réussir. Même si nous ne nous attachons pas à lui. Parce que la Bible nous fait voir que Dieu fait pleuvoir et sur les méchants et sur les justes. Et qu'il fait sortir le soleil et sur les méchants et sur... et sur les justes. Donc, que ce soit les méchants, que ce soit les justes, tous devraient reconnaître quelque part que c'est Dieu qui fait tout. Donc, la prière démontre que nous dépendons de Dieu, que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de son aide. Quelqu'un dit amen bien.
Amen.
Je reviens encore sur ce que je venais de dire. En priant fréquemment, nous ferons couler dans nos vies un fleuve de grâce. Un fleuve d'aide de Dieu. Un fleuve de sagesse divine. En revanche, si nous oublions que nous dépendons de Dieu et que nous avons besoin de sa présence dans notre vie quotidienne, nous allons limiter l'œuvre de Dieu dans notre vie. Alléluia. Oh, alléluia. En tout cas, le premier réflexe de Néhémie était toujours celui de prier. Écoutez, quoi qu'il puisse nous arriver, et même lorsque notre intelligence humaine nous fera comprendre que dans cette situation, il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a plus d'espoir, quand tu ne sauras ni ne pourras plus rien faire, tu peux au moins prier. Amen, amen. Tu peux au moins prier. La prière peut tout remettre en cause. Elle peut vous ouvrir la porte vous apporter une nouvelle opportunité ou un nouveau départ. La prière, prier veut dire recourir à un plus fort. Prier veut dire recourir à un plus grand. Recourir au plus capable, au plus intelligent que soi. Alléluia. Oh, alléluia. La prière change le cours de l'histoire. Amen, amen. Je disais autrefois que la prière peut faire que tu entres à un endroit où personne ne t'attendait. Parce qu'elle fait déclencher la faveur de Dieu. Et tu entres là où tu n'as pas droit. Là où personne ne t'attend. Là où tu ne réunis pas les critères.
Tu
entres, mais on te retrouve là. Oh. La prière fait que tu puisses secouer le trône de Dieu. La prière. Soyons des hommes et des femmes de prière. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Alléluia. Oui, même quand tout t'est dit que c'est fini, mais crois au moins qu'avec Dieu, tu relèveras les anciennes ruines. Ta vie est en ruine, c'est vrai. Non seulement que les autres te le font savoir. Toi-même, tu sais que ta vie est en ruine. C'est pourquoi je dis que même quand tout te dit que c'est fini, crois au moins qu'avec Dieu, tu relèveras les anciennes ruines. Le plus grand message que je t'adresse encore, que je te transmets ce soir, c'est celui de savoir que ton chantier longtemps aux arrêts et abandonné réouvrira ses portes. Je l'ai dit autrefois. Je l'ai dit autrefois et je le répète. C'est comme si tu construisais. Mais tout s'est arrêté. Qu'est-ce qui a fait que les choses s'arrêtent? Peut-être le manque de moyens. Je ne sais pas. Peut-être les adversités. Mais la bonne nouvelle que je t'adresse de la part du Seigneur, c'est que ton chantier, longtemps fermé, réouvrira ses portes. Alléluia. Alléluia. Parce que notre Dieu se trouve être le plus grand conducteur de travaux. Et tu peux réouvrir les chantiers avec lui. Quelqu'un dit amen bien.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Oui. Tu vas rebâtir sur les fondations abandonnées depuis longtemps. Autrefois, nous étions en train de dire que qui sait si tu es l'instrument choisi par Dieu pour donner un autre sens au nom de ta famille. Qui sait? Si c'est par toi que ces noms-là, longtemps ternis, va être valorisé. Je ne connais pas forcément les noms de ta famille. Je connais au moins les miens. Nous sommes des Lumpungu. Mais bien aimé dans le Seigneur, à cause du Seigneur, ces noms-là a pris de l'ampleur. Mon père, oh, c'était de la foutaise. Mais j'aimerais vous dire que lorsque vous accédez à Christ, les chantiers longtemps refermés, qui étaient en ruine, peuvent réouvrir ses portes. Un grand bâtiment pénètre de là. Là, on disait qu'il n'y a rien, un grand bâtiment pénètre. Oh, amen, amen. Je vous ai donné des exemples ici. Je parlais de ce bâtiment qui est en face de l'hôtel, le grand hôtel de Kinshasa. Des années, un bâtiment inachevé. C'était une logis de chats, de chiens, de quoi, je ne sais quoi. Mais passez encore là-bas. C'était resté comme ça une vingtaine d'années. Mais maintenant, passez là-bas. Vous allez commencer à vous demander où est parti ce bâtiment. C'est le même. Seulement, le chantier a été réouvert. On y a travaillé. On a embelli. Quand les gens reviennent par là, ils se disent, c'est pas vrai. Les gens diront ça de toi. Je dis que les gens diront ça de toi. Ils diront, ce n'est pas vrai. Et ils diront, est-ce que c'est possible que la vie de quelqu'un qui était complètement à terre puisse se relever? Oui, c'est possible. Jésus disait, n'étais-je pas dit que crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur? Quelqu'un a besoin de croire ici ce soir. Je dis que tu verras la gloire du Seigneur. Oh, alléluia. 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 Ah, tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. C'est ce que Ésaïe 58, 12 en français courant dit. Il dit, tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. Peut-être que chez vous, les fondations sont arrêtées au niveau où les gens étudient seulement pour arriver. On a construit jusqu'en cinquième des humanités. On ne peut pas dépasser ces niveaux de murs.
Tous
qui viennent jusqu'à ce niveau-là du mur. Cinquième des humanités, point. Et même personne de la famille ne comprend pourquoi Bibi Kézo Bouka n'a qu'un niveau. D'autres, le mur se limite au niveau où, on juste pour le mariage, les gens te taquinent seulement, te demandent, et puis quand il faut concrétiser, ils se retirent toujours. Les anciennes ruines. Et Esaïe dit, tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. Mariage et la famille Nabino Pario. Oh, j'ai pensé. Donc, vous n'avez jamais connu ça. Tout ce qu'on a connu, c'est on a engrossé. On est parti, 2 ans après, c'est fini, on retourne. Mais je t'ai dit, à cause de la confiance que tu places en Dieu. Laisse-moi te dire que celui que tu adores est juste. Non, laisse-moi te dire qu'il est juste. Peu importe les contrats, les choses qu'on a contractées à ton insu en famille. Et le dimanche soir, je suis en train de dire que tu ne seras pas victime de consuliambules, de complots montés en famille. Tu ne seras pas victime de cela. Ils ont fait des tractations, ça les regarde. Mais toi, tu es en Christ. La Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu vas te marier. Même si les oncles disent ça ne se passe pas chez nous, ça se passera avec toi. Pourquoi? Parce que le cordon ombilical spirituel qui est lié à toutes ces choses-là a été coupé. Et Dieu t'a relié au cordon ombilical spirituel à Christ. Tu ne vas pas vivre les misères de la famille. Tu vas vivre le bonheur que le fait de s'attacher à Christ produit. Non, tu vas rebâtir sur des anciennes ruines. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. Alléluia. Oh, alléluia. Moi, je me suis marié bien. Et le mariage a commencé avec mon frère qui est devant moi. À l'église. C'était le tout premier mariage de la famille. Moi, j'étais 8e. Lui, il était 7e, donc. Donc, avant, il n'y a que l'aîné qui s'est marié coutumièrement. Et puis, le reste, c'était boyé-boyé. Mais se marier suivant tous les principes. Jusqu'à se présenter devant le Seigneur, ça a commencé là. Nous avons commencé à rebâtir sur les fondations abandonnées depuis longtemps. Bandeloana bakata ezaya yote. Je pensais que je parlais à quelqu'un.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Oh, alléluia. Ton chantier doit réouvrir ses portes. Il faut ba mona lisusu ba mituke ba niko ko déposer ba moelon. Ba zelo. Oui, chantier fongwani. Tous les oncles, même l'oncle Kingoto le doit constater.
Ah, takaweza kuna na ka kondwa yeba yango.
Alléluia. Que le chantier a réouvert ses portes.
Le chantier ne fume les
sous. Mais lorsque le chantier réouvre les portes avec Néhémie,
au chantier fume les bicouquets à Néhémie.
Les ennemis ne manquent pas.
Banguna basanga raté.
Les jaloux. Sambala. Yoga kombo sambala.
Yoga ko sambala.
Faut jamais donner ce nom à ton enfant,
Kupesa komba bwete na mwana na yo.
Sambala. Kombo moko bizarre.
Kapasi.
Sambala. Eh. On dirait yambasa. Sambala. Tobija. Faut pas donner ce nom là à vos enfants. Dès qu'ils ont vu cela, ils deviennent mécontents. Ils vont commencer à se moquer d'eux. À les mépriser. Et dire, vous ne ferez rien. Que faites-vous là?
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est notre vie qui est restée longtemps en ruine. Vous devenez mécontents parce que ma vie commence à se rebâtir.
Donc
il y a des gens, quand tu es dans la ruine là, ils sont contents. Ils veulent seulement que tu restes là dans les ruines. Mais ce n'est pas la volonté du Père. Alléluia. Oh, alléluia. Ils vont avoir honte. Toute cette race-là de Sambala et de Tobija, ils auront honte. Alléluia. Oh, alléluia. Rebâtir. Ta vie a besoin d'être rebâtie. Oui, tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. Comprends que de tes cendres sortira ou renaîtra tout un bâtiment d'une grande portée. Lorsque Dieu le créateur et le récréateur de toutes choses s'associe à toi, tu ne seras plus que ruine et cendre, non. Tu vas renaître de tes cendres. Amen, amen. Tu vas renaître de tes cendres. Job, qui était un homme prospère, a vu sa vie finir dans la cendre.
Job,
dans Job 2, verset 8, là, il dit que Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre.
Ça n'a
pas été facile pour Job.
Job.
Une vie qui était prospère. Et tout d'un coup, c'est comme une foudre qui est tombée sur lui. Il a tout perdu. Même sa santé. Et il est voilà assis sur la cendre. Et il y a un tesson à la main, se grattant. Pleurant. Se souvenant de sa belle vie d'autrefois.
Et
Job, qu'est-ce que tu es devenu? Job. La vie de quelqu'un peut basculer comme ça, n'est rien, détendre. Il
ne
t'arrive pas de te parler à toi-même, de monologuer. Si on monologue, souvent quand rien, les choses ne marchent pas. On commence à monologuer. Et les Congolais, surtout ces dernières années, monologuent beaucoup. Quelquefois, tu es au volant, tu vois un Congolais en train de traverser, dit, hey, Mawa. Traverser la route, dit, celui-ci, si je n'étais pas prudent, je l'aurais ramassé. À cause de beaucoup de difficultés, c'est comme s'il était en train de marcher dans sa chambre. Il ignore que cette histoire qui est en train de venir là, se peut l'éliminer. Dépasser par les événements. Ceci m'est déjà arrivé. Hein? Il y a quelques années arrière, mon épouse est enceinte. Je n'ai rien laissé à la maison, il n'y a rien. Je suis sorti comme tout homme, comme Mwana Mubali, comme Mwana Mubali.
Ah, qui cherche?
Je cherchais. Ah! Jusqu'à l'après-midi.
Pourquoi yango peso yinda?
Je n'ai rien trouvé.
Trouvez-vous?
Ah!
Alors je suis en train de rentrer là, je me pose des questions. En train de cogner la pierre. J'étais piéton à ce moment-là. En train de cogner la pierre. Il y avait un kilomètre qui me séparait de l'endroit où je suis descendu de mon taxi jusqu'à la maison. En train de cogner la pierre. C'est le moment le plus mauvais d'un homme. C'est-à-dire, c'est comme un gardien.
C'est
quand l'adversaire tire un coup fumant. Maintenant, le gardien se lance pour prendre le ballon. Il est en l'air à plus de 2 mètres. Il se lance. Maintenant, il a raté de prendre le ballon. Le ballon est passé, il est entré. Lui, maintenant, tombe sans le ballon. Il a très mal.
Passe.
Mais il peut tomber comme il est tombé là. S'il tombe avec les ballons, il n'a pas mal. Pourquoi il
allait?
Alors, un homme qui a des responsabilités, qui rentre, c'est comme un gardien qui est monté et qui est tombé sans ballon.
Et me
voilà en train de rentrer, cognant la pierre. Alors ce jour-là, le Saint-Esprit parle. Je dis, toi là, tu vas être surpris. Quand tu arriveras à la maison. Je me dis, oh non, ça c'est moi. Ah, ça sont mes pensées. Je continue à cogner la pierre. Et à rentrer à la maison. Quelques mètres, la même voix. Dans mon cœur, là, timidement, il dit, toi là, tu vas être surpris une fois arrivé à la maison. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je continue à cogner la pierre. À quelques mètres de la maison, il la voix là revient pour la troisième fois. Toi là, tu vas être surpris en arrivant à la maison.
Dis,
mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'ouvre la barrière. Ce jour-là aussi, mon épouse était à l'extérieur, mais voit, elle est là, je la... Donc, dès que je suis en train, nous sommes regardés. Je dis,
yeah.
Donc, moi, je suis assemblant, même vide. Alors, j'ai commencé à trembler. Mais, curieusement, elle était en train de sourire. Elle riait, chérie. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors j'étais en train de m'approcher avec des points d'interrogation dans la tête. Elle continuait à sourire. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a compris que je n'avais... Elle a pris l'avance et dit, oh, un ange est passé ici. Alors je commençais à me tranquilliser. Termine un peu l'affaire, c'est comment? Dis non, quelqu'un passé ici nous a apporté telle quantité de riz, telle quantité de farine. Il a apporté ceci, il a apporté. Je dis, Je dis, ah, je comprends, c'est Dieu qui me parlait. Chemin faisant pour me tranquilliser, j'aimerais te dire que Dieu te tranquillisera. Alléluia. Alléluia.
Amen.
Le problème cette année, c'est quoi? Qu'il marche devant toi. S'il est berger, devant toi, alors le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Alléluia. Dieu va te faire des surprises. Il me disait, toi là, tu seras surpris une fois arrivé à la maison. J'ai été surpris. Donc je pouvais rester 3-4 jours tranquille sans me donner de peine d'aller chercher en rentrant avec en tremblant dans le cœur. Parce que je savais qu'il y avait au moins une nourriture de 3-4 journées
fandiwana.
Dieu veut que nous rebâtissions sur les anciennes ruines.
Job.
Aïe, 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 avec un tesson pour se gratter.
il va s'asseoir sur la
cendre.
Il y a plusieurs ici, peut-être, qui sont assis sur la
cendre.
Au chapitre 17, le premier verset de Job, Job déclare ceci.
Il dit,
mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Au verset 11 dit quoi? Mes jours sont passés. Mes projets sont anéantis. Les projets qui remplissaient mon cœur. Job était en train de voir tout s'anéantir. Français courant dit au verset 11 ici du chapitre 17, dit, ma vie est terminée. Voici réduit à rien le projet que j'ai fait et mes plus chers désirs. Et au verset 13, il dit, que puis-je attendre encore? Aïe, 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 quel sort! Quelle vie! Il a perdu tout espoir. Tout ce qu'il voit maintenant devant lui, c'est la mort. Parce qu'il a dit, mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Lorsque vous entendez Job parler, vous pouvez vous voir, vous pouvez voir que vous avez affaire à un homme qui avait perdu tout espoir. Pour lui, sa vie est ruine, est en ruine. Ta vie est une ruine et condamnée pour toujours. Et qu'il est certain de ne jamais se relever de ses anciennes ruines. Écoutez-les parler à partir du verset 12 du chapitre 17. Il dit, mes amis prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Je m'arrête d'abord. C'est-à-dire qu'ils refusent même de croire à l'exhortation de ses amis. Ses amis sont en train de lui dire, non, malgré que tu vois la nuit comme ça, le jour est en train de s'approcher. Que les ténèbres que tu vois là n'est pas la fin, la lumière viendra. Ainsi, maintenant, lui rétorque en disant que mes amis prétendent que la nuit, c'est le jour. Que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Ma vie n'est que ténèbres. Ma vie n'est que nuit. Et au verset 13, il dit, c'est le séjour des morts que j'attends pour demain. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. J'écris à la force. Vous entendez ça? Un homme qui dit, j'écris à la force. C'est-à-dire à sa tombe. J'écris à la force. Tu es mon père. Et au vert. Vous êtes ma mère et ma soeur. Donc il se voit déjà, il voit déjà son corps en décomposition. Des petites bestioles qui sont en train de voyager dans tout son corps, les Michopi, comme il a dit. Il a perdu tout espoir de vivre,
Job.
Au verset 15, il dit, mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Elle descendra vers les portes du séjour des morts. Quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Job, comment peux-tu parler de la sorte? Donc il dit que lui est son espérance.
Ils
iront dans le séjour des morts, dans la poussière. Job a perdu tout espoir de vivre. Jusqu'à ce moment ici, Job s'est dit, il ne faut pas rêver. Il y a donc des souffrances lorsqu'elles vous atteignent. Vous êtes sûr de ne jamais vous en sortir. Mais Job était loin de s'imaginer la surprise
la surprise que lui réservait le Seigneur. Vous savez, généralement, nous tous, lorsque nous passons par des temps difficiles, nous n'avons pas la capacité de voir ce qui est au-delà de notre souffrance. Quelqu'un qui passe par la maladie ne voit que la mort sur la prochaine. Il ne voit que l'aggravation de cette maladie. Non, il ne pensait pas qu'à l'aggravation. Pensez aussi qu'il y a une main qui a été meurtrie à la croix de Golgotha.
Il
fait que la Bible dise que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pas que nous serons, mais que nous sommes. Oh, alléluia.
Amen.
Job ne voyait pas ça. Mais pourtant, Dieu lui réservait une surprise.
Job,
les chantiers de ta vie,
quoique
fermés hermétiquement, maintenant,
réouvrira
ses portes.
Job,
tu rebâtiras les ruines antiques. D'autres fois, tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Ces fondements qui ont été abandonnés depuis longtemps.
Job,
tu es maintenant assis sur la cendre. Mais laisse-moi te dire que bientôt, et très bientôt, on te trouvera assis dans un palais et sur des fauteuils dorés. Aujourd'hui, tu es assis sur la cendre. Mais très bientôt, Job, très bientôt, on te trouvera assis dans un palais et sur des fauteuils dorés. Cette vie qui est couverte de poussière aujourd'hui et ton corps qui est couvert de plaies seront couverts de gloire et d'honneur.
Job,
il arrivera qu'au plus fort de sa souffrance
et
dans la profondeur de ses ruines, Job puisse recevoir une lumière, une vision de ce que Dieu avait comme programme avec lui et avec sa vie. Et le langage de Job changea du tout. Quand vous lisez dans Job 19, verset 23 et le suivant, il est écrit que, oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. C'est Job qui parle. Qu'elle fût écrite dans un livre. Je voudrais qu'avec un birin de fer et avec du plomb, elle fût pour toujours gravée dans les rocs. Et on met trois points. S'il a continué encore à parler à ce niveau-là. Mais quand on arrive au verset 25, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Comme pour dire que malgré toutes ces choses, Dieu lui a ouvert les yeux
pour
qu'il comprenne qu'au-delà de sa souffrance, il y a la souveraineté de Dieu. Au-delà de sa souffrance, il y a la main invisible de Dieu. Ainsi s'écrit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers. Il se lèvera les derniers sur la terre. Il poursuit en disant que quand ma peau sera détruite, l'Éternel se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Écoutez ça. Écoutez ça, c'est merveilleux. Il dit, je le verrai et il me sera favorable. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais te dire que tu verras Dieu et il te sera favorable. Job dit, je le verrai et il me sera favorable. Pendant que Job parle, il est sur la cendre en train de se gratter. Il dit, je le verrai. C'est vrai que je souffre maintenant. J'ai des plaies, mais je verrai Dieu. Alléluia. Il dit, je le verrai. Amen, amen. Je suis encore à quel verset? Verset 27.
Il dit, mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente.
Au-dedans
de moi. Alléluia. Job, ta vie ne se terminera pas en queue de poisson. Oh, amen, amen. Ta vie ne se terminera pas en queue de poisson.
Non.
Mais sache que tu relèveras les anciennes ruines. Et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. En lisant donc Job, nous pouvons dire que de nouveau la foi triomphe.
Amen, amen.
De nouveau la foi triomphe. 1 Jean 5, 4 dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ayez foi en Dieu. Amen. Cette année, ayez foi en Dieu. Amen, amen. Job regarde à l'avenir pour y trouver l'espoir, la délivrance, la solution que le présent lui refuse. Et de nouveau, son esprit s'enflamme. Aujourd'hui, il refuse l'espérance. Le présent peut te refuser beaucoup de choses. Le présent peut te refuser les mariages. Le présent peut te refuser le travail. Le présent peut te refuser les salaires. Le présent peut te refuser. Mais il n'en est pas forcément avec l'avenir. Oh, alléluia. Alléluia. Les jours d'aujourd'hui, avec ses déboires, avec ses misères, passera. Car dans ta vie, il n'y a pas que les jours d'aujourd'hui. Il y a aussi les jours suivants. Il y a aussi le lendemain dans ta vie. Et nous ne savons pas toujours ce qu'un jour peut enfanter. Qu'est-ce qu'un jour nous cache? Tu connais ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais demain, il y a des paramètres que tu ne maîtrises pas.
Aïe, aïe, aïe.
Yes, yes,
yes.
Aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un ici dont demain, je parle de demain. Dieu a déjà préparé quelqu'un qui viendra te voir et qui t'apportera l'argent, cet argent dont tu as besoin. Dieu l'a déjà préparé. Mais toi, tu ignores tout. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia.
Amen.
Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ici dont la vie a perdu toute raison d'être, celui qui a perdu tout espoir, te dit que tu renaîtras de tes cendres. Tu vas renaître de tes cendres. Tu vas renaître de là. Aujourd'hui, les gens disent de toi, tu n'as rien. Chez toi, il n'y a rien. Mais laisse-moi te dire que bientôt, très bientôt, ils y verront quelque chose. Et ils changeront d'avis. Ils disent que chez toi, il n'y a rien. Chez toi, tu n'y as rien, il n'y aura rien. Ils disent toujours ça. Mais très bientôt, quand ils reviendront, ils trouveront quelque chose. Là où ils ne voyaient rien. Là où ils ne voyaient rien. De leurs propres yeux. Ils viendront, ils verront. Que ici, il n'y avait rien. Mais quand nos yeux voient qu'il y a quelque chose.
Alléluia. Amen.
Les serviteurs d'Élie allaient toujours. Il n'y a rien. Il revient. Va voir. Il n'y a rien. Il revient. Va voir. Il n'y a rien. Il revient. Va voir. Il dit toujours il n'y a rien. Il n'y a rien. On pouvait même en faire un refrain. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Demain il n'y a rien. Après demain il n'y a rien. Et puis un bonjour, et lui lui dit, va voir.
Alléluia.
Va voir. Va voir. Va voir. C'est comme s'il va dire à Eli. Chef, ça sert à rien.
Chef,
chaque fois que tu m'envoies, je connais la réponse. Mais
Je peux renouveler la réponse seulement ici parce que je la connais déjà. C'est quoi? Il n'y a rien. Et il dit non. Va voir. Non, écoute, ils viendront, ils verront. J'ai dit qu'ils viendront chez toi et ils verront. Ils viendront avec la pensée en disant qu'il n'y a rien. Nous venons simplement par formalité. Nous venons quand même par formalité. Nous savons la réponse que nous allons retourner donner. Ils viennent par formalité. Pour prendre énième, il n'y a rien. Quand ils viennent, quand le serviteur d'Élie est arrivé, ce jour-là, apparemment, tout est en place. Il
est
rentré dire il n'a rien. J'ai comme l'impression que j'ai vu quelque chose. C'était pas grand, mais elle n'était pas là avant. Toutes les six fois là,
il
n'y en avait pas. Dis non, que je regarde. Il dit, ah, mais tiens, cette tâche là de nuage, juste comme en forme d'une pomme de la mer, six fois elle n'était pas là. Mais pour cette fois, elle est là. Il est rentré. Normalement, j'ai trouvé toutes choses en place. À l'exception du fait qu'une petite chose qui n'existait pas avant s'est trouvée là. Il explique. Et lui, dit, ça y est. C'est suffisant. Va dire au roi
Aka.
Cours vite. Parce que la pluie va les saisir. Je m'imagine. Je ne m'empêche pas de pousser mon imagination. J'ai comme l'impression que son serviteur dit, oh chef,
calme-toi.
Tu ne m'as pas bien suivi. Je dois te réexpliquer les choses. Parce que ton enthousiasme m'étonne. Je viens de te dire que j'ai trouvé les choses comme autrefois. Sauf que j'ai trouvé un petit truc. Le soleil est au comble, mais j'ai trouvé un petit nuage. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Comment tu peux me demander d'aller rapidement parler au roi? Tu es en train de perdre le temps. Va vite. Va vite. Si tu traînes encore, la pluie va les surprendre. Au roi. Prophète, je ne sais pas si tu me comprends. C'est un tout petit nuage.
Vous
savez, ceux qui ont l'habitude de se moquer toujours de toi là.
Hein?
Même quand le petit nuage viendra.
Ça
c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Mais quand vous lisez cette histoire, la Bible dit en un instant. Le ciel s'assombrit. Et un vent violent. C'est l'onction de l'accélération. Et quelquefois, Dieu permet que dans la vie de certaines personnes, que l'onction de l'accélération et de la récupération se combine, se coalise et fasse route ensemble. Récupération et accélération. C'est pourquoi on dira que les premiers seront les derniers seront. L'onction de l'accélération, quand elle prend place, les gens commencent à se poser des questions sur ta personne. Et non, c'est pas possible. Nous étions allés avant lui. Mais tout vient qu'il ait réussi mieux que nous avons réussi. Je déclare que Dieu le fera avec toi. Au nom de
Jésus.
Alléluia. Oh, alléluia. Job. Tu vas rebâtir.
Yoko Tonga.
Sur les anciennes ruines.
Abifelo ya kala.
Alléluia. Ah, je n'ai pas le temps de continuer avec Job. J'ai des choses à dire. Et plus tard, quand vous lisez dans Job
42,
Job va dire ceci. Que mes oreilles, quand tu as visité Job,
Job
va dire, je me repens.
Je me répands, je ne te connaissais pas assez. J'ai dit des choses injustes sur toi.
Vous savez,
nous disons des choses injustes sur Dieu. Tu dis des choses injustes. Job avait dit des choses, aussi des choses. Mais quand Dieu l'a visité,
il
a dit, je me réponds. Je ne te connaissais pas. Je ne te connaissais pas. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. C'est ça le problème, oh Dieu. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, Mes yeux t'ont vu. Ce ne sont pas les yeux de quelqu'un d'autre. J'aimerais te dire que dans ta souffrance, l'expérience que tu vas faire, ce ne sont pas les yeux de quelqu'un d'autre que tu le verras. Mais tes propres yeux, tu verras la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer correctement le Seigneur? Veuillez vous lever, acclamons correctement le Seigneur. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore acclamé le Seigneur. Dieu t'a parlé ce soir et tu peux vivre ces choses. Mets-toi à battre les mains en disant, Seigneur, si tu l'as fait avec Job, tu es capable aussi de le faire avec moi. Si tu as rebâti avec Néhémie, tu es capable de rebâtir aussi avec moi. J'aimerais que nous le fassions bien. Battons nos mains et déclarons ces choses. Que vous puissiez garder silence, nous sommes tous debout devant le Seigneur, nos yeux fermés. Alors suivez maintenant ma dernière conclusion. Les yeux fermés, s'il vous plaît, nous sommes devant le Seigneur. Quand Job a vu ce que Dieu a fait dans sa vie, dans français courant, verset 5, Job va dire ceci: je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant c'est de mes yeux que je t'ai vu. Et au verset 6, Job ajoute en disant: c'est pourquoi je retire ce que j'affirmais. Je reconnais avoir eu tort et je m'humilie. Oui, j'ai dit des choses qui n'étaient pas vraies sur toi. Maintenant, moi, ton pasteur, laisse-moi te dire que ceux qui ne voient ta vie qu'en noir, ou toujours une vie, une voie ta vie que, une voie, toujours une vie misérable, ont tort. J'ai dit ceci: ceux qui ne voient ta vie qu'en noir ou toujours misérable ont tort. Et si toi-même tu as cessé de croire en toi et en ton avenir, tu as aussi tort. Écoute, Dieu viendra au rendez-vous avec toi pour que tu comprennes que rien n'est perdu.
et que tu peux, toi, et non un autre, relever les anciennes ruines et rebâtir sur les fondations abandonnées depuis de longues dates. Et l'on t'appellera, voire même dans ta propre famille, réparateur de brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Oui, c'est par toi que Dieu veut passer pour redonner de l'espoir, de la valeur et un sens nouveau à toute une famille en ruine. Et pourquoi pas à ton quartier en perte de vitesse. Dieu veut passer par toi. Dis, Seigneur, je suis d'accord. Et acclame-le ce soir. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.